Les amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 18 d'Euro Tout est Million qui est un petit peu spécial. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai plein de choses à vous raconter, mais en plus, je ne suis pas dans mon chez-moi à Boulogne pour une fois, mais j'ai quand même ramené mon micro dans ce petit périple que j'entreprends. Je suis actuellement à la Founders Retreat, comme on l'appelle. C'est une petite semaine durant laquelle voilà, les associés de Kodak se retrouvent de façon annuelle ou biannuelle. J'avoue, c'est la deuxième fois qu'on l'a fait dans l'année. On en a fait une un petit peu plus tôt où on était allé, parti en Vendée dans la maison de Paul. Mais cette fois-ci, je suis à Colmar. Voilà. Pourquoi Colmar? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est Mathieu qui a choisi le Pimps que vous connaissez peut-être dans Lève tes chaussures et plus exactement la meuf du Pimps. Voilà. Donc, bisous Zoé. On va pas faire genre que le PIMS s'est organisé des choses, mais bon, je ne suis pas dans mon environnement naturel. Je suis extrêmement content en revanche de vous retrouver et sachez juste que ce à quoi j'ai renoncé pour être en train de vous parler actuellement. Donc là, je suis tout seul dans cet appartement. Pourquoi? Parce que j'ai quand même mes trois acolytes, les trois autres associés de Kodak, donc Guillaume, Paul et Mathieu, qui sont partis acheter des clopes. Et je sens que sur la route pour aller acheter des clopes, ils vont trouver un bar, ces petits bâtards. J'ai dit non. Vous savez quoi? Ils sont partis. J'ai dit non, je reste. Je dois faire le podcast. Il est 22h22. Je suis fatigué. De ouf, je me suis réveillé tôt, transport, etc. Mais je prends quand même le temps de vous délivrer ce pourquoi je me suis engagé, à savoir ce petit podcast. Donc merci beaucoup d'être avec moi. Et sachez que voilà, je prends ce sujet très à cœur. Donc rendez-le-moi, allez mettre des notes, écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et soyez élogieux dans vos commentaires sur Apple Podcast ou Spotify. Voilà. Donc, c'est l'heure de l'introduction. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon, j'ai 25 ans et je suis le fondateur de Kodak, mon agence ads qui aide les e-commerçants et les startups dans leur stratégie de media buying, mais aussi dans leur créa et dans leur tracking. En 3 ans et demi, l'entreprise a atteint plus de 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus maintenant d'une soixantaine de salariés. J'attends un petit peu avant de vous attribuer dans le chiffre d'affaires de Kodak le chiffre d'affaires des nouvelles agences que nous avons intégrées. Je dis des au pluriel, vous allez voir dans les actualités. L'étape suivante de mon business, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne le nom à ce podcast. J'ai pour objectif, pardon, de le faire avant fin 2024, plus exactement novembre 2024. Et dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, de mes rencontres et des lectures diverses que j'effectue pour vous apprendre comment atteindre le top 1% de ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci beaucoup d'être avec moi dans l'épisode 18 d'Euro Tout est Million. Que je vous livre avec plaisir malgré cette heure tardive. Voilà. Il n'y a pas du tout de closing. C'est le moment où normalement il faut mettre un petit jingle pour laisser la pause au présentateur parce que voilà, j'ai pas de phrase de conclusion à la fin. Bref, non, mais bon, plus sérieusement, ça me fait extrêmement plaisir. Ça fait combien de temps là? 3 minutes, 3 minutes, ça va. C'est bon, je suis dans les temps. Bon, je vais essayer de vous faire un épisode efficace parce qu'à tout moment, s'ils n'ont pas trouvé de bar, ils vont rentrer, ils vont faire du bruit. Et bon, j'en profiterai pour leur demander leur avis. Donc peut-être que les associés vont arriver au milieu. Donc je vais essayer d'avancer le plus possible pour pas qu'ils me dérangent. Donc précédemment, dans Road to 10 Million, ça commence toujours comme ça. J'ai titré ces épisodes en chapitres pour que vous compreniez qu'il y a une succession, que c'est soit comme un livre, soit comme une série, selon ce que vous aimez. Mais voilà, donc quand on commence une série, on essaie de se rappeler de ce qui se passe dans l'épisode précédent. Et donc dans l'épisode précédent de Road to 10 Million, il s'est passé deux choses entre autres, même s'il est très long, hein, il faisait plus d'une heure. Hein. La première chose, c'est que je vous ai raconté en gros là, le récit de mon anniversaire qui a eu lieu la semaine dernière, dans laquelle voilà, quelques petits soucis avec la police, etc. Blablabla. Vous pouvez aller écouter si vous voulez, c'est dans la partie actu au tout début. Mais voilà, j'ai passé une excellente semaine et un excellent anniversaire. Et je vous avais fait une rubrique assez fournie dans les pendules à l'heure où on avait parlé de réplication et de création, de faire l'exercice d'essayer d'être son pire concurrent et des dividendes que paye le fait d'essayer de vivre sa vie comme une aventure. Donc ça, c'était les trois idées principales, mais il y en avait 10, c'était pendu à l'heure. Voilà, on passe très très vite sur le précédemment, on aura tout million. Au menu de cet épisode, quatre choses. Vous connaissez la structure de ce podcast. On commence par l'actualité de la semaine pour Kodak et pour moi-même. J'ai plein de choses à vous raconter cette semaine, parce que si vous avez bien écouté l'épisode précédent, vous savez que même si on est lundi, hier, j'ai couru ce fameux 10 km qui fait partie de mon objectif de running. Je vous rappelle, je prépare le semi-marathon de Boulogne. Il y a aussi un petit rachat d'une autre boîte qui est intervenue la semaine dernière et plusieurs, d'ailleurs, grosses sorties vidéo dont je vais vous parler après. On va ensuite remettre les pendules à l'heure. J'en ai une petite dizaine, j'en ai exactement 10 même cette semaine. Donc les pendules à l'heure, c'est quoi? C'est une petite section dans laquelle je vous balance quelques remarques empiriques, donc basées sur mon expérience, absolument pas justifiées de façon théorique, j'en sais rien si c'est vrai, mais en tout cas, c'est des intuitions que j'ai sur les choses. Que j'essaie d'argumenter un petit peu, et ce sont des petits formats, donc voilà, 3-4 minutes d'explication sur des idées qui me tiennent à cœur. Le meilleur de la semaine, j'ai deux choses à vous partager cette semaine. Je suis toujours dans mon délire un petit peu aux US là, sur les startups, Y Combinator, Mark Zuckerberg, etc. Donc on en parlera et ensuite je répondrai à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram, @theo.le.lyon. Allez me suivre, on vient de passer d'ailleurs les 40 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Première rubrique, actualité, c'est l'heure du nouveau jingle que j'improvise toujours sur le fait. Bienvenue dans la rubrique Actu. On commence par parler du 10 km. Bon, remettons ça un peu dans le contexte, parce que là, vous êtes dit, ok, j'arrive dans un podcast business et le mec commence à me parler de 10 km. 10 km de quoi ? 10 km de course, 10 km à pied, à cheval, je ne sais pas. Eh bien, il y a quelques mois de ça, j'ai tout documenté dans ce podcast d'ailleurs, je me suis un peu chauffé pour me reprendre ma vie en main sur le sport de manière générale. Donc d'abord, c'était la salle de sport. J'ai fixé ce premier challenge qui était celui de faire un DEXA-scan autour de 10% que je n'ai pas du tout atteint et qui m'a bien foutu le seum. Vous pourrez aller consulter cet épisode sur la masterclass personnelle, même si j'ai absolument respecté ce que j'ai dit que j'allais faire. Mais en même temps, je me suis rajouté un peu de difficulté. Je me suis dit que j'allais commencer à courir, voilà, afin de poursuivre un objectif qui allait dans le sens totalement contraire à celui de construire du muscle et perdre du gras. Parce que voilà, depuis que je fais du running, disons que c'est plus dur de progresser à la salle. Mais quand même, j'ai envie de faire de la perf. Donc, je me suis greffé en fait sur le challenge que s'était fixé un de mes amis, qui s'appelle Jordan, G.U. sur Instagram. C'est lui qui documente beaucoup toute sa prépa. Il a fait le challenge Chouf tout semi dont je vous parle à chaque fois. Voilà, donc l'objectif, c'est le semi-marathon de Boulogne, qui serait donc courir 21 km. C'est dans 6 semaines maintenant. Et je m'étais mis quelques petites étapes intermédiaires. La première, c'est que j'avais couru le Paris-Versailles, sur lequel j'avais fait une performance assez décevante. J'avais couru, je me rappelle juste de mon allure, c'était 5,21 au kilomètre. Et donc là, je venais prendre ma revanche sur 10 km. Donc 10 km de Paris-Centre. Mon objectif, c'était de le faire, en moins de 47 minutes, puisque mon dernier 10 km, je l'avais fait en 50 minutes, 50 secondes. J'étais assez déçu parce que mon Strava avait bugué. J'étais persuadé, quand j'ai terminé la course, de l'avoir fait en 49. Et quand j'ai vu le temps officiel, ça fait 50-50. Et ouais, j'avais le démon. Donc c'était le 10 km du PSG, je crois. PSG ? Oui, ouais, ça, il y a 3 mois. Sachant que je n'étais pas entraîné. Donc là, je me suis entraîné comme une brute. Allez me suivre sur Strava, d'ailleurs, Théo Lyon. Je documente tous mes entraînements et je pars vraiment de zéro. J'étais nul à chier. Nul. Le premier 10 km que j'ai fait, j'ai fait autour de 55 minutes. Ce n'est pas une très bonne performance. Et donc là, j'allais prendre ma revanche. Parce que 10 km, ce n'est pas mon objectif, mais c'est une distance que j'aime bien. Parce que j'ai de base en fait un background sportif qui fait que je suis assez bon dans les sports de attendez, je remets mon antipop là. Dans les sports de un peu de sprint ou de fractionné. Parce que donc avec le MMA que j'ai beaucoup pratiqué, ça m'aide. Et donc, voilà, je m'étais inscrit à ce 10 km avec Jordan, évidemment, et c'est pas mal parce que c'est un parcours qui est très plat, donc il permet de faire des performances. Donc, on avait rendez-vous dimanche matin, c'est toujours très beau d'ailleurs, on a couru dans les rues de Paris, c'est boulevard Haussmann, etc. C'est un parcours qui est ouf, qui est vraiment dingue, sur lequel j'ai pris le départ et je voulais faire moins de 47 minutes, je vous le rappelle. Donc, j'ai pris le départ, je suis parti un petit peu plus vite que prévu, parce qu'en fait, quand vous avez un objectif d'allure, enfin de temps, vous savez quelle allure vous devez faire au kilomètre, et donc vous la mettez sur votre montre. Moi, j'utilise l'application Exercice sur l'Apple Watch. Qui me fait des vibrations en fait quand je suis trop lent. Et j'avais aucune idée de si j'étais capable d'atteindre cet objectif. Et si vous regardez d'ailleurs l'épisode précédent de Road to 10 Million, vraiment je suis dans le doute si je suis capable de l'atteindre. Donc je suis parti un peu plus vite que prévu en me disant. Parce que j'avais des bonnes sensations en fait, simplement. Je suis parti vite et j'ai suivi le rythme, j'étais dans le sas moins de 45 alors que je savais que j'allais pas faire moins de 45. Et je suis parti avec les gens et je me suis dit bon, quand ça craque, je ralentirai. Et j'ai pas eu de moment de craquage. Alors évidemment, pendant la course, d'ailleurs c'est un phénomène très intéressant, je ne sais pas si vous avez déjà couru tout court, d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de faire une course pour s'en rendre compte, mais c'est impressionnant de voir tout ce que le cerveau vous raconte comme dinguerie pendant que vous essayez de finir une course, pour vous empêcher de faire ce que vous êtes venu faire. Donc il vous dit quoi ? Il vous dit que vous avez mal un petit peu par... Ah mais regarde, t'as mal, là, va pas trop vite, non, c'est bon. Et puis, ah tu vois, ton temps, bon, t'es un petit peu en dessous de 47, mais vas-y, mais ralentis un peu. On sait jamais, vas-y, t'es déjà en dessous de ton objectif. Le cerveau, il part en couille. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça m'avait déjà fait des trucs comme ça quand je faisais des sparring de MMA et que j'étais contre quelqu'un de plus fort que moi. Donc je passais un sale quart d'heure, vraiment des rounds de 3 minutes où tu te fais casser la gueule. Au sol, moi, les moments que je détestais le plus parce que je suis nul, c'est la lutte. Je suis vraiment pas bon en lutte. Je me débrouille au sol et debout, c'est ma spécialité. Mais la lutte, c'est horrible. Je passe vraiment des sales quarts d'heure parce que je ne sais pas me défendre en lutte. Donc, et à ce moment-là, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais du MMA en fait ? Tu re-questionnes tout. Et il y a des trucs qui passent dans ta tête quand tu fais une course qui sont vraiment de l'ordre de, mais pourquoi tu cours en fait ? et qui vont venir questionner la solidité de ta motivation. Donc c'est pour ça que c'est très important quand vous vous lancez dans quelque chose et que vous avez prévu de faire des choses assez dures, d'avoir une motivation solide. Donc par exemple, la salle, une motivation qui ne marche pas, c'est pour plaire aux meufs. Ou alors, il faut vraiment être un psychopathe quoi, pour s'infliger autant de mal juste pour plaire à des meufs. Je vous conseille pas de fréquenter des gens comme ça. Souvent, il faut avoir un petit peu plus que ça. Il faut aimer l'équilibre personnel, le dépassement de soi, la performance, la progression, etc. Bref, donc mon cerveau m'a raconté plein de dingueries. J'ai réussi quand même à le battre. Et j'ai fait, donc je suivais ma montre. Je me suis calé sur le rythme et je voyais le rythme qui était bon. Je voyais que je courais les kilomètres en 4:30. Donc 4:30, cette allure-là, ça faisait 45. Et même à la fin de la course, je vois, je ne sais pas si vous savez, il y a un meneur d'allure en fait, pour chacun des sas, donc de départ sur une course. Vous avez le meneur d'allure moins de 50 minutes, moins de 45 minutes, etc. Et moi j'étais parti un peu, bon, comme le sas c'est long, souvent tu pars un peu en décalé, donc tu vois le meneur d'allure qui est devant toi, mais souvent il est 100 mètres, 200 mètres devant toi. Et je ne l'ai pas vu de la course. Et à la fin de la course, j'ai commencé à la rattraper. Et à la fin de la course, j'ai dépassé le mec qui avait le repère 45 minutes. Et donc comme j'étais parti loin derrière lui, normalement ça veut dire que j'étais en train de faire un putain de bon temps. Donc je passe la ligne d'arrivée exténué, j'avais tout donné. Enfin, j'avais tout donné, mais à la fois je me suis dit, bon, on en reparlera après sur les barrières mentales, mais c'est très intéressant de savoir comment fixer un objectif. D'ailleurs, j'ai une pendule à l'heure dessus. Parce que je trouve que ça détermine beaucoup de choses sur ce que tu penses que tu es capable de faire. En fait, je pense que si je m'étais mis l'objectif de courir en 42, peut-être que j'aurais fait, bon, peut-être pas 42, mais j'aurais fait une performance de dingue. Et donc je termine la course et je me dis, là j'ai fait un bête de temps, j'ai fait moins de 45. Bon, bah super, je regarde Strava, bon, j'avais pas couru 10 km parce que j'avais lancé le chrono un peu tard, ou je sais pas, bon, Strava c'est toujours de la merde de toute façon quand tu fais une course, c'est pas précis. Donc j'attends le chrono officiel, je regarde le chrono officiel, je cherche, et là je vois Théo 45-04 ou 06. Donc là je comprends vraiment pas, d'autant plus que je vois Jordan, que j'ai vu arriver après moi, et je le vois en 44-20. Et je comprends pas. Et je vous jure, je pète un câble. J'avais le seum. Honnêtement, j'avais zéro célébration. Alors que j'avais quand même prévu 47 et je faisais, selon ces dires-là, 45-06. Mais j'avais le démon parce que je comprenais pas. J'avais passé le meneur d'allure et j'avais fini devant Jordan qui faisait mieux que moi. Et donc, on se met sur le chemin du retour avec Jordan qui avait dormi chez moi. Donc on va pas se prendre les affaires. Et pendant le chemin du retour, Jordan commence un peu à se foutre de ma gueule, ce petit bâtard. C'est-à-dire, ouais, je fais 44, écoute, bon, bah, t'as fini un peu derrière moi. Alors que j'ai fini devant lui, je suis parti en même temps que lui, je suis arrivé avant lui. Et il ose quand même se foutre de ma gueule. Et là, moi, je dis, bon, il y a un truc chelou, franchement, il y a un problème. Et donc, on regarde en ligne, et je fais, mais attends, mais c'est pas possible. T'es sûr que tu m'as donné le bon dossard? Parce qu'en fait, c'est lui qui t'allait récupérer les dossards la veille. Et comme ce con, il s'est mis un carton, d'ailleurs, il a voulu se rajouter de la difficulté, il s'est mis une turbine la veille de la course, mais bon, il a quand même fait 45. Voilà, je vous ai spoilé. Bon, bref, on a découvert progressivement que, enfin, d'un coup, on avait inversé les dossards et que j'avais aucune raison d'être dégoûté. Et que juste, en un claquement de doigts, en découvrant qu'en fait, bah, j'avais fait le temps que je pensais que j'avais fait, et bah, ça a changé totalement l'interprétation que j'ai eue de ma course. J'étais fier de moi, tout d'un coup. Bon, voilà, donc un petit peu ridicule quand même dans le raisonnement, mais j'étais quand même très content, très, très, très content de cette performance parce que j'ai fait 44-20, les amis, j'ai fait 44-20. Il y a 3 mois, je faisais 55 au 10 km. J'étais sur le cul et surtout très content d'avoir tout donné parce que je me suis entraîné vraiment fort, fort, fort. Et je suis content de m'être fait souffrir. Donc voilà, je vous recommande vraiment d'essayer un sport comme ça, un petit peu dur mentalement. Je vous en ai donné deux là, donc le MMA ou même la boxe, n'importe quel sport de combat où il y a du sparring intense. Ou alors la course, c'est vraiment des choses sur lesquelles tu dois te battre contre toi-même qui sont hyper intéressantes. Donc c'était la première actu. Seconde actu, les amis, ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on discute, que je vous dis qu'on va racheter des boîtes, que c'est pas pour cet épisode, que c'est pour celui d'après, puis celui d'après, puis celui d'après. Je vous ai parlé du rachat de Netcord. Et maintenant, les amis, nous en avons une autre qui s'appelle Standard Ecom. Donc nous avons annoncé sur LinkedIn l'intégration, le rapprochement, comme on dit d'ailleurs dans le milieu corporate, entre Standard Ecom et Kudak. Donc Standard Ecom, qui est la boîte montée par Tom Beuglin, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui anime un super format, qui s'appelle l'ODM, donc l'Odyssée du Million, dans lequel il documente tout avec une patte très authentique, que j'apprécie beaucoup. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui m'ont repris un peu ce format de documentation Road to 10 Million, mais lui, c'est le seul sur lequel je le regarde. Et je pense que c'est parce qu'il y a mis du sien. Il l'a adapté en fait à sa personnalité. Et par exemple, il y a un truc marrant qui s'est passé, c'est qu'il a documenté toutes nos discussions avant qu'on signe le contrat. Donc à la fin de chaque call, il a noté ses, son ressenti, sans savoir si ça allait se faire ou pas. Et donc ça fait qu'il a maintenant une banque de vidéos qui est ouf. Et donc la vidéo, allez voir la dernière d'ailleurs sur sa chaîne. Et donc l'Odyssée du Million, bref, il y a une grosse miniature avec ma gueule, vous la raterez pas. C'est dingue. Je suis très fier, je me reconnais beaucoup dans cette agence-là. Bon, bref, je vous ai toujours pas dit ce que ça faisait, Standard.com. C'est une agence spécialisée en Klaviyo, donc en CRM de manière générale. Donc Customer Relationship Management, c'est globalement tout ce qui se passe dans les emails et les SMS de façon plus large. Donc comment est-ce qu'on réactive un client une fois qu'il est rentré dans votre base ? Donc avec des emails, des newsletters, etc. C'est une agence qui est aujourd'hui la plus grosse fusée de Kodak en termes de chiffre d'affaires, qui vient de faire 40 000 en septembre par mois et qui va faire 50 000 en octobre. Donc tout ça, c'est du CA qui n'est pas comptabilisé dans les 350 dont je vous parle avant. Donc en octobre, on va commencer à comptabiliser. Je pense que normalement, ça devrait frapper en termes de montant. Voilà, je suis très content. Donc c'est une fusée atomique en termes de chiffre d'affaires et je vous conseille d'aller suivre Tom sur les réseaux et sur LinkedIn, Tom Beuglin, donc B-O-E-G-L-I-N. Parce que, je vous dis, c'est quelqu'un dans lequel je me reconnais beaucoup, mais c'est un mec dont je connais l'éthique de travail, et je sais que ça va faire une fusée. Il s'est mis un petit challenge aussi, qu'il allait se raser la tête si jamais il n'atteignait pas l'euro to 1 million avant... Alors, j'ai pas envie de dire de connaître, je crois que c'est Mars. Je crois qu'il s'est engagé sur Mars, mais dans tous les cas, je l'ai en vidéo, parce qu'il l'a enregistré, il s'est engagé, donc il faudra qu'il assume. Donc voilà, il lui reste encore quelques mois, il lui reste 6 mois pour atteindre ce truc, et normalement, bon... On va tout faire pour que ça se passe et qu'il puisse garder sa jolie petite coupe de cheveux. Mais bref, voilà, c'est la cinquième agence du groupe Kodak, c'est super. Et sa vocation à se compléter encore un peu dans les mois qui arrivent. Bienvenue Standard.com. Alors, troisième actu, c'est la sortie de Peep My Brand. Peep My Brand, voilà, ça fait longtemps que je vous en parle. Nous sommes actuellement à 9000 vues pour la vidéo. Peep My Brand, c'est ce format que nous avons tourné avec Lunettes pour tous, dans lequel j'ai fait intervenir mon équipe d'experts Kodak dans un format digne d'M6, comme il a été signalé en commentaire. Et le but, voilà, c'était, on l'enregistre à 4 mois d'intervalle, donc on est intervenu, on a proposé un plan d'action et 4 mois après, on est venu regarder si ça avait marché. Et ça avait marché, on a réussi à ramener du trafic dans la boutique de Lunettes pour tous. Donc je suis super content du rendu de ce format. C'est Anthony donc Delmastro de chez nous, notre head of vidéo, et David Tran, le vidéaste des marques, je ne sais pas comment te définir, tu me diras, mais vidéaste des marques de luxe, disons ça. entre autres, mais qui nous ont géré ce format comme des chefs, et je suis trop trop fier de ce qu'on a sorti. Je pense que honnêtement, au moins en termes de qualité visuelle, c'est le meilleur format entrepreneurial, du moins sur notre thématique de l'année. Et je dis pas ça, c'est très objectif. Hein, je pense en termes d'efforts qu'on a mis dedans, etc. C'est pas une vidéo genre les 10 astuces pour monter sa boîte ou scaler son business. Non, là c'est un format, c'est télé. Les efforts qu'on a mis, travailler avec une équipe et tout. Enfin. C'est un truc de ma boule quoi, qu'on a mis en place. Je ne vous rendais certainement pas compte à l'écran parce que c'est 40 minutes, après vous, ça passe. Pour nous, c'est des dizaines, enfin, même des centaines d'heures de travail, en fait, tout cumulé avec le montage et tout. Donc je suis très content que vous l'ayez regardé. On est content des scores. Et j'ai d'ailleurs trouvé une remarque très intéressante. Et c'est marrant parce qu'avant de le sortir, on s'est posé avec Anthony sur qu'est-ce qu'on pense que les gens vont dire de ce format. S'ils devaient faire une critique, laquelle ça serait ? On se posait, on se disait, mais non, on est super fiers de notre format. Je ne vois pas trop ce qu'ils peuvent dire en commentaire. Et là, c'est toujours intéressant d'ailleurs de voir comme quoi les auditeurs, enfin bon, les viewers, quoi, ont toujours raison. Ils ont trouvé un truc, et j'ai trouvé que c'était un très bon feedback, c'était qu'il manquait une petite partie sur le détail des réflexions des experts. Et donc on a bien noté, on fera gaffe pour l'épisode numéro 3, mais c'est un truc qu'on n'a pas du tout anticipé. Et quand on le dit, c'est extrêmement simple. Hein. Mais là, on ne s'en est pas rendu compte. Donc parfois, j'ai fait un post d'ailleurs, je vous en ai parlé la semaine dernière, sur se voir par les yeux des autres. C'est très dur quand tu fais ton business et que tu as la tête dans le guidon, de t'imaginer comment ça sera reçu par un prospect qui ne te connaît pas. Donc voilà, l'objectif c'était de faire 30 000 vues sur cette vidéo en 30 jours, elle est à 9 000 au bout d'une semaine, même pas encore une semaine, donc je pense que ça va continuer à monter. Voilà, c'est l'autre contenu. Quatrième actu, c'était une autre grosse sortie de contenu, vous l'avez suivi, on est en train de tout péter dans les charts là, c'est un truc de ma boule. Enlève tes chaussures avec le Raptor, et je vais aller regarder en direct combien de temps on est, parce que à chaque fois que j'actualise, ça remonte, c'est un truc de ouf. Donc on a enfin sorti l'épisode avec Ismail Ouslimani, j'étais très content d'ailleurs qu'il en parle un peu dans son podcast que j'ai écouté ce dimanche, que je vous conseille d'aller écouter aussi, ça s'appelle 10 000 pas. Ismail, c'est le fondateur de Raptor Nutrition et Zero to Hero, qui voilà, sont c'est la façon dont il gagne sa vie, ça. Donc c'est un business de compléments alimentaires et un business de coaching. Je suis client des deux et je suis client très content. Je l'ai reçu aussi dans le podcast parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant, très réfléchi. Et avec lui, on a fait un super épisode. Il y a plein de punchlines et tout. Franchement, c'est de la dinguerie. Je reviens de regarder. On est 12e catégorie business. Et je crois qu'en catégorie entrepreneuriat, on est combien avec tes chaussures ? On est 7e. Et Retour tes millions, 8e. Donc là, les potes, franchement, on trust les classements. Et j'espère qu'on va finir premier dans Enlève tes chaussures parce que c'est un mec très bankable quand même. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. C'est un banger de ouf. Je suis trop content. Trop, trop content. Et à la fois, on a attiré quand même un peu les fameux tocards dont il parlait, les gens qui l'avaient drainé sur YouTube, qui sont venus mettre des commentaires. Il y a un mec qui m'a fumé. Il a dit quoi ? Il a dit « Quelqu'un peut-il mettre une gifle au rouquin ?» ou un truc comme ça, je crois. Il est sans ses chaussures. Il s'est cru chez sa mère. Le rouquin, c'était moi, c'est pour un pot. Donc c'est moi qui le traite de roux. Je crois que c'était ça le commentaire, sachant que ouais, le mec ne sait pas qu'on est en fait effectivement chez ma daronne. Donc je suis chez ma mère, je peux retirer mes chaussures et je l'encule. Voilà, donc super. D'un niveau professionnel quand même, parce que c'est un podcast business, hein, je vais rapprocher mon ordi pour pouvoir vous raconter tout ça et vérifier que le micro est bien branché toujours, sinon j'aurais l'air con. Ouais, c'est bon. Shure MV7, mon micro. Niveau pro, 5 petites actus. Alors, donc d'abord sur la partie contenu. Donc, vous savez, j'ai 4 personnes hein, qui bossent sur la mise en place juste de YouTube, donc des vidéos YouTube. Et maintenant, plutôt c'est même 5 d'ailleurs, avec Élise qui nous a rejoint et que j'embrasse. Je compte. Est-ce que ça fait 5 ? Anthony, Brian, Clémentine, Lucas, Élise. Ça fait 5, super. Voilà, donc on a mis un gros taf en place sur le tracking du contenu, je vous en avais déjà parlé, mais c'est quasiment opérationnel. Je vais pouvoir enfin savoir sur quelle vidéo vous cliquez, bande de petits bâtards, là, avant de réserver des calls de découverte sur Kodak, sur Linker, sur le labo. Et je crois que j'en avais déjà parlé dans l'épisode précédent, mais on avait commencé à le mettre en place. Là, c'est quasiment bon. Donc franchement, voilà, si jamais vous avez kiffé une vidéo et que vous êtes intéressé par Kodak derrière, cliquez bien sur le lien en description, s'il vous plaît. Ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'il faut vous servir encore plus comme contenu, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec nous. Et ça, c'est hyper précieux pour moi comme data. Voilà. On fait une belle semaine sur Linker. Mais de manière générale, sur les sales, ça va extrêmement bien en septembre sur les taux de closing. Donc, parfois, les gens s'enjaillent un petit peu au Q4 parce que voilà, il y a la saisonnalité qui les porte et donc ils ont plus de leads à taux de closing égal. Nous, en fait, on a plus de leads, évidemment, mais on a aussi des taux de closing qui sont bien, bien, bien plus hauts parce qu'on a fait du travail de fond dont je vous ai déjà parlé. Donc super content sur Linker, une belle semaine avec des gros contrats qui signent. Je crois qu'on a signé d'ailleurs le plus gros contrat de l'histoire de Linker sur un pack Mac personnel 360. Bravo aux Pimps. En créa, notre gros sujet en ce moment, donc le créa c'est le labo, hein, donc c'est notre studio créatif, c'est de craquer un petit peu la récurrence des packs créa, parce que vous savez que la créa c'est toujours un truc qui se vend en one shot, donc les gens viennent chercher une vidéo, etc. C'est très dur de leur vendre des abonnements, et aujourd'hui on a trouvé une formule qui nous permet de le faire. On a rajouté pas mal d'outils maison, qui permettent de construire un truc un peu cohérent, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que tu dois les accompagner sur le long terme. Si tu leur donnes en fait les outils d'analyse de créa et de reporting, etc., bien clean, ils comprennent mieux ce qu'on veut délivrer comme promesse. Donc, c'est notre gros du sujet. On a tourné aussi l'épisode d'Enlève tes chaussures avec les fondateurs de MIM, donc MIM, M-Y-M, qui est une plateforme qui évolue sur le secteur de la créateur économie et qui permet entre autres aux créateurs de monétiser leur contenu et pas que sur du porno, figurez-vous, comme ils l'ont dit dans le podcast. Et voilà, donc on avait aussi l'occasion, vous savez, je fais gagner des places dans ce format pour venir assister à Enlève tes chaussures, et cette semaine, c'est Valentin Furnion, si je ne dis pas de bêtises, qui a gagné sa place et qui est venu assister au tournage. Il est venu de Lyon exprès, on a passé un super moment. Et donc, vous savez que pour participer, pour être tiré au sort, il suffit de faire une chose, c'est de mettre une note sur ce podcast. Et je vais modifier un petit peu les règles. Ne vous inquiétez pas si vous avez déjà fonctionné sur l'ancien format, ça comptera toujours. L'ancien format, c'était de prendre une capture d'écran de vous qui mettez la note et me l'envoyer sur Instagram, théo.le.lyon. Là, ce que vous pouvez faire pour avoir deux fois plus de chances d'être tiré, donc je compterai deux fois les personnes qui font ça, c'est de partager le podcast en story et de me taguer. Comme ça, je vous repartagerai. Et ça permet du coup au podcast de se diffuser. Et pour moi, c'est win-win. Donc, je vous fais gagner un truc et vous m'aidez à diffuser le podcast. C'est tout bon. Et en plus, c'est encore plus simple pour vous. Vous pouvez évidemment mettre une note aussi, hein, s'il vous plaît. Faites pas les bâtards, là, ceux qui n'ont pas mis de note. Allez sur Spotify, mettez 5 étoiles, mettez un petit commentaire avec l'épisode que vous souhaitez faire découvrir aux autres en premier. souvent c'est assez utile pour eux parce qu'ils regardent les notes et ils se disent il y a plein d'épisodes, je regarde dans l'ordre, pas dans l'ordre, etc. Et ils vont regarder vos recommandations. Qu'est-ce que vous leur recommandez d'écouter en premier? Donc vous mettez une note et vous partagez en story, et franchement, vous ferez de moi le plus heureux des hosts de podcast. Et dernière actu de la semaine, c'est l'intervention à HEC. Donc je suis retourné un petit peu sur le campus pour un jury start-up, dans lequel voilà, j'étais dans un panel avec le fondateur, entre autres, de Caption, je me souviens. Et puis voilà, on était quatre. C'était très cool de retourner. Donc on n'a pas pu faire ça dans l'amphithéâtre principal, qui a brûlé. Je ne sais pas si vous avez suivi les infos, mais le blondeau a cramé. Il était tout noir d'ailleurs, c'était assez impressionnant. Et... Donc il y a des barrières, enfin pas des barrières, mais des fils. Comment ça s'appelle ça? Vous savez, sur les scènes de crime là. Comment ça s'appelle? Bon, bref. C'est vraiment impressionnant de voir qu'il est tout noir. C'est un peu un symbole pour tous les élèves d'HEC. Hein, le blondeau, c'est là où il y a tous les trucs les plus importants qui se passent. Donc on a fait ça en cafette. Cafette, c'est là où on fait les pots. Donc c'est là où il y avait les soirées. C'est assez marrant de faire un événement dedans. Mais ça s'est très bien passé, voilà. Donc votre serviteur est aussi un jury de start-up, voilà, et donne son avis extrêmement pertinent sur pourquoi les gens sont des tocards et nuls à chier. je rigole. Je suis sympa. Voilà, donc j'ai donné des petits conseils, petite intervention. En anglais d'ailleurs, en anglais, bordel. En anglais, in full English. Donc comme quoi, et ça s'est très bien passé. Donc ne croyez pas, parce que j'ai un vieil accent dans ce podcast, que je prends volontairement pour pas faire le mec. J'ai un pote comme ça, là, c'est un ancien pote qui, à chaque fois qu'il prononçait un mot en anglais, tout à coup montait sur ses grands chevaux. Je me rappelle, je sais pas pourquoi il prononçait. Vous connaissez le rappeur Machine Gun Kelly? Et il disait, ouais, j'écoute des sons, j'écoute Nino, j'écoute Machine Gun Kelly, comme ça. Toujours trop. Et c'est d'un malaise. Je sais pas si vous avez des potes qui font ça, juste pour montrer qu'ils ont un accent anglais. Vous pouvez parler simplement, hein, les potes. On sait que vous savez bien parler anglais. Je me suis égaré. Continuons. Donc tout ça pour dire, je parle anglais. Niquez-vous. Voilà, donc c'est le petit rappel. Je vous ai déjà fait le rappel sur le tirage au sort, mais je vous fais un update du coup des notes. Chez Building Public, je vais vous parler des notes, des écoutes et du classement. Donc sur les notes, nous sommes à 275 notes sur Spotify versus 251 la semaine dernière. C'est plus 24, c'est super. Nous sommes à 72 notes sur Apple Podcast. C'est plus 12 par rapport à la semaine dernière où nous étions à 60. Vous êtes toujours autant des salopes, ceux qui écoutent sur Apple Podcast. Mettez une putain de note. Pourquoi c'est ça sur tous les podcasts? Vous êtes des ingrats? C'est ça? Vous pensez que parce que voilà, vous payez pas Spotify, vous pouvez vous permettre de consommer gratuitement le contenu qui vous est donné par un serviteur qui sèche une sortie au bar pour vous donner ce format? Bande d'ingrats. Donc, je vous le rappelle, c'est qu'on veut atteindre 1000 notes d'ici la fin du trimestre. Donc, il va falloir se mettre au charbon. Il nous reste 725 notes. Il faut faire plus que 25 par semaine. Je vous fais pas les calculs. On veut que ça pèse. Quand les gens ils arrivent sur la fiche, ils disent « Oh putain, il y a un nombre de notes là-dessus. » Les gens, ils kiffent de ouf. Donc, s'il vous plaît, allez mettre une note. Voilà. Sur les écoutes, nous sommes à 40... maintenant, à plus, d'ailleurs. Bon, je vais vous donner les notes que j'ai... Le nombre, pardon, que j'ai noté hier. Nous sommes à 44 900 écoutes versus 40 600 écoutes. C'est plus 4 300 versus la semaine dernière. Et d'un point de vue classement, donc nous sommes 8e en catégorie entrepreneuriat avec le petit bonus voilà, d'enlève tes chaussures qui ne cesse de se hisser plus haut. Et au moment où j'avais logué ça hier, on était 11e. Donc là, je crois qu'on est 7e. Ça s'annonce de bon augure. Vous savez que notre objectif, c'est aussi d'être premier en catégorie entrepreneuriat. Donc voilà, il y a deux objectifs en termes de stats purs, c'est 1000 notes et premier catégorie entrepreneuriat. Quelques sorties à venir, juste avant de passer au pendule à l'heure. Et je vais aller me chercher un peu d'eau parce que je n'ai pas anticipé là. Donc sur les sorties à venir, cette semaine on sort une seule vidéo, on sort une masterclass sur Discord. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je place Discord dans le contexte macroéconomique et pourquoi c'est une opportunité, pourquoi est-ce qu'on a racheté une boîte dessus. Et ensuite voilà, j'ai tourné Hero Tout est Million, donc le format YouTube cette fois-ci, qui devrait sortir la semaine prochaine, dans lesquels je vous révèle les chiffres du trimestre. Je vais les révéler sur YouTube. J'ai réfléchi, je vous ai dit je crois la semaine dernière que j'allais en parler dans cet épisode, ça n'est pas le cas. Je vais le garder ça pour YouTube pour que vous ayez une complémentarité entre les deux. Je vais boire un petit peu d'eau. Je vais essayer d'emmener mon micro avec moi quand même parce que franchement, si vous ne pouvez pas entendre mes bruits de glotte, c'est comme si ça ne servait à rien. Oh putain, il est trop court. Je vais tirer un petit peu comme ça. Voilà, écoutez ça au robinet. Les amis, je suis désolé, mon micro s'est débranché. Je peux accuser personne, je suis tout seul. Donc j'en étais sur l'idée de développer la confiance les uns dans les autres. Donc bref, c'est la première chose. Il y a énormément d'interdépendance qu'on ne voit pas. Et le problème, c'est que quand ta boîte, elle grossit, eh bien, c'est compliqué pour le sales de savoir si, en effet, les équipes opérationnelles font bien leur travail, par exemple. Et donc, ça communique pas très bien. Du coup, ça m'a fait comprendre ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose, les présentations d'entreprise ? Vous savez, quand le patron, il vient présenter en mode « oui, les résultats de la boîte, etc. Oui, on est bon, on n'est pas bon, etc. » En fait, ça sert à montrer à chacun des services de votre entreprise qu'ils sont entourés de brutes. Donc, ça veut dire que tu es là pour montrer aux sales que, par exemple, tu fais du sale sur des clients. Tu vois. Et quand tu fais du sale sur des clients, le sales, il le sait. Et ça change des petits adjectifs qu'il va mettre dans des phrases. L'assurance avec laquelle il va présenter le pitch. Et ça, c'est hyper important. Ça touche au mindset, très simplement. Et donc, pour ça que c'est important, si vous avez une fonction de responsabilité dans une boîte, selon moi, de montrer aux équipes, les unes les autres, du coup, qu'elles travaillent bien. Parce que ça va les aider à mieux faire leur travail. Et donc, pour ça, il faut des chiffres. Il faut qu'en fait, la personne... Commencez avec la fin en tête. C'est-à-dire, dites-vous, le sales, à quel moment est-ce qu'il peut avoir besoin... À quel moment est-ce qu'il peut se poser la question de est-ce que les équipes sont bonnes ? Il y en a plusieurs. Par exemple, quand un client lui demande, c'est la première chose. Donc, il faut qu'il ait une data qui lui vienne directement pour savoir pourquoi est-ce que Kodak, ils sont bons. Donc, parce qu'on a tel client depuis tant de temps. Parce qu'on a fait tel résultat sur telle perte de temps avec tel client sur lequel c'était pas facile. Bon, ça, c'est un exemple. Ils vont aussi avoir besoin de se poser la question dans des cas beaucoup plus anodins, comme par exemple quand leur pote leur demande « Kodak, c'est une bonne agence ?» Et bien là, il faut leur donner quelques cartouches pour qu'ils puissent répondre. Ou alors, simplement, ils vont se le demander eux-mêmes le matin sous la douche. Donc là, pour le coup, ils peuvent pousser le raisonnement un petit peu plus loin, peut-être. Mais voilà. Donc, c'est un cercle vertueux, en fait. Quand tu vois que tous tes potes sont des bourrins, que tous les services font du sale dans l'entreprise, et bien toi aussi, tu as envie de faire du sale, tu as envie de te mettre au niveau. Donc, mon conseil là-dessus, sur cette pendule à remettre à l'heure, c'est trouver la façon la plus simple de montrer aux gens qu'ils font du bon travail, les uns les autres. Donc, ça sert à quelque chose de faire des présentations d'entreprise, si et seulement si c'est pour montrer aux gens de l'entreprise ce que font les autres gens dans l'entreprise. C'était la première pendule. 3-4 minutes, c'est nickel. Il est quelle heure, là ? Putain, il est l'heure d'aller au bar. Hein. Je me fais du mal. Hein. Allez, on continue. Et je sais pas comment vous vous sentez quand vous entendez ça. Est-ce que vous avez l'impression de me déranger ? Parce que oui, c'est le cas en tout cas. J'ai vraiment pas du tout envie d'être avec vous là. J'ai envie d'être au bar en train de boire une pinte. Je rigole. Vous savez très bien. C'est mon hobby préféré d'enregistrer des podcasts. Vraiment. Et en plus, je rigole pas du tout. Faire du contenu, je kiffe. Et je sais que de toute façon, je pourrais aller au bar après. On avance. Comment fixer un objectif ? Donc là, bon, évidemment, c'est par rapport à mon expérience du running. Ça, c'est la pendule numéro 2. Donc, je m'étais mis un objectif à 47 minutes. Donc, pendant la course, je vous ai dit, j'ai rapidement compris que cet objectif avait été fixé trop bas, il était trop lent. Et donc, je me suis demandé, pendant la course, mais attendez, comment je l'ai fixé ce 47 ? Est-ce qu'il est si pertinent que ça ? Est-ce que je devrais le respecter ? Est-ce que je devrais courir à ce rythme-là parce que je vais exploser derrière ? Et la vérité, c'est que je ne me rappelais plus vraiment. Je l'avais fixé, je crois, au doigt mouillé. Je ne me rappelais plus. Et je pense que je l'ai fixé, en fait, pour vous, si vous voulez savoir. Je n'avais pas vraiment d'objectif avant, mais j'aime bien m'en donner en public pour ne pas faire la salope. Donc, je l'ai fait juste pour vous. Et je voulais vous donner un petit tuto sur comment fixer un bon objectif, parce que celui-ci était un très mauvais objectif. Enfin, pas un très mauvais, mais un mauvais au moins. Donc, la première chose à comprendre, c'est que l'objectif détermine le chemin. Je vous en ai déjà parlé, mais si tu choisis l'objectif de courir un 10K ou de courir un marathon, ça va changer le chemin que tu vas entreprendre. Donc, on a déjà bien écumé cette idée-là. Donc, selon moi, choisissez votre arrivée selon le parcours auquel ça va vous destiner, disons. Donc moi, par exemple, je veux quelque chose qui me sorte de ma zone de confort et qui travaille mon mental. C'est pour ça que j'ai choisi semi-marathon. C'est à la fois pas un marathon, mais c'est pas non plus un 10K. Donc ayez toujours cette réflexion en tête. Selon l'objectif que vous choisissez, donc c'est avant tout un objectif qui donne accès à un chemin, qui révèle un chemin. C'est le premier sens d'un objectif. Ça détermine la route. La seconde chose, c'est qu'un objectif, le second sens, c'est un engagement envers soi-même. Donc c'est une promesse que tu te fais à toi, que tu vas tout donner pour atteindre quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, ça implique que quand tu fails, tu es la seule personne que tu déçois quand tu l'atteins pas. Et inversement, quand tu l'atteins, ça renforce ton estime de toi. Et l'estime de soi-même, c'est une citation de Naval, je crois, c'est rien de plus que la réputation que tu as envers toi-même. Donc, est-ce que tu fais ce que tu as dit que tu allais faire ? Parce que ton cerveau, il le sait, tu ne peux pas le duper. Donc, il faut aussi que cet objectif, forcément, si on prend ça comme un engagement, il soit atteignable. Parce que tu veux que ça renforce ton estime de toi. Et si tu te mets un objectif capillotracté, comme on dit, tiré par les cheveux, eh bien, tu en fait, fais du mal à ton estime de toi et tu comprends pas finalement ce que c'est profondément un objectif. Donc pour moi, je trouve que c'est c'est très beau en fait comme sens de l'objectif, ce second chose, comme le voir comme un engagement, c'est parce que c'est aussi un exercice d'acceptation du point de départ. Tu peux pas dire que tu vas courir un marathon au bout de 2 semaines. C'est pas possible. Ça sert à rien de te dire que tu vas te fixer un objectif aussi haut. Donc tu es un peu obligé de prendre en compte tes propres limitations. Donc vous avez le droit de rêver grand, mais il faut, on n'a pas le droit de se mentir pour un bon objectif sur le prix à payer. Très important. Voilà. Et la troisième chose avec un objectif, c'est que c'est précis. Donc moi, je vous conseille d'avoir 3 trucs. Une date butoir, donc je veux faire telle chose avant telle date. Une méthode, donc qu'est-ce que vous allez faire au jour le jour? Je veux aller 4 fois à la semaine. Et un genre de sanction à la fin de votre succès, donc une attestation simplement. Donc là, ça peut être la course, par exemple, le temps aux 10 km, qui ne dit pas si vous êtes bien entraîné ou pas, qui souvent va être corrélé, mais c'est quelque chose sur lequel vous acceptez d'avoir un petit peu moins de contrôle direct. C'est pas votre entraînement, quoi, c'est la compète. Donc bon, voilà, bon, c'est très simple, c'est ce que j'avais fait pour sécher pour scaler, hein, le challenge, où je m'étais dit que j'avais deux... La date, c'était mon anniversaire, le 4 octobre. La méthode, c'était 3 séances par semaine et un déficit calorique de 500 kilocalories par jour. Et la sanction à la fin, c'était le Dexascan, qui ne s'est pas passé comme prévu, même si j'ai respecté le plan. Ça permet aussi de séparer un petit peu, d'avoir plusieurs façons d'évaluer si on a été bon. Toc, toc, toc. Donc voilà, il faut que ce soit. Donc un objectif, si on récapitule, il faut qu'il soit challengeant, réaliste et précis. C'est tout. Donc à la fois challengeant pour qu'il vous indique un chemin sur lequel vous devez vous mettre et vous n'étiez pas, a priori, si jamais vous voulez sortir de votre zone de confort. Réaliste, ça veut dire que si jamais vous faites bien le travail, vous pouvez l'atteindre. Et précis. Donc ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté quand vous le relisez plus tard et que vous n'êtes plus dans le mood où vous l'avez écrit. Et donc dernière chose là-dessus, ne faites pas la salope. Quand vous n'avez pas atteint l'objectif, vous retournez vous entraîner, mais faites pas genre que ça vous fait pas chier. J'aime pas en fait profondément ce truc-là. Je trouve que c'est, je vois ce que veulent faire les gens quand ils disent ah oui, bon, j'ai pas atteint mon objectif, j'ai perdu le match, mais je suis content quand même de ma prestation. Et donc je suis content de ce qu'on a donné. Non, en fait, bon, les amis, pourquoi est-ce que tu t'es fixé un objectif en premier lieu? Si c'était pour pas l'atteindre, si c'était pour être ok de pas l'atteindre, tu as le droit de pas être, d'être triste de pas avoir atteint ton objectif. Tu as le droit d'être fier de toi pour avoir mis tout en œuvre pour l'atteindre. Mais tu as le droit d'être triste de ne pas l'avoir atteint. C'est totalement normal. Si là, au 10K, j'avais fait un vieux 48 ou un 49, j'aurais eu le seum. Et à juste titre, quand j'ai fait mon Dexascan et j'ai vu marquer 16,1%, j'étais dégoûté. Je ne vais pas faire genre que je m'en foutais. Et pourtant, j'ai tout fait. J'ai fait le déficit calorique, j'avais compté bien les trucs, etc. J'ai tout fait parfaitement. Et potentiellement, peut-être que la machine... peut-être que je vais faire le rageux. La machine n'était pas très précise, je ne sais pas, tu vois. Mais... ne faisons pas les salopes, s'il vous plaît. Respectez-vous. Donc là, tant qu'on est dans cette partie, je vais mettre un objectif pour le semi-marathon. Donc j'ai actualisé mon temps sur 10 km, qui a actualisé en même temps mon programme d'entraînement, qui m'a dit que je devrais être capable, après 6 semaines, de faire le semi-marathon en 1,35, ce qui me semble absolument absurde. Absurde de chez absurde. En 1,34 même d'ailleurs. Donc je me suis mis. Donc pour le semi, je vais faire. Mon plan, il est très simple. Donc challengeant, réaliste et précis. Challengeant, 1h35. J'ai envie de faire 1h35. Parce que Campus, c'est l'application que j'utilise pour les objectifs, me dit 1h34, mais j'ai la salle de sport et tout en même temps, donc je sais que je mets pas, enfin je vais, j'ai un, je sers un autre objectif en même temps, donc j'accepte de perdre une minute. Je vais faire 4 runnings par semaine selon le plan Campus, ça pour le coup c'est un truc que je pourrais attester directement, et la sanction aura lieu le 21 novembre. Précis. Voilà pour la pendule numéro 2. Numéro 3, se trouver des excuses. Pourquoi il ne faut pas s'en trouver? Donc selon moi, se trouver des excuses, pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce que en rentrant du 10K, je parlais avec Jordan qui me disait un petit peu tout ce qui se passait dans sa tête aussi pendant qu'il courait le 10K, et finalement on a exactement les mêmes réflexions. Et ça m'a rappelé un combattant de MMA qui s'appelle John Jones et qui racontait un moment dans une conférence de presse que souvent, avant les combats importants, une semaine avant, il se mettait un énorme carton. Donc il prenait de la coke, etc. Il buvait, il se mettait une grosse tôle. Pour pouvoir, si jamais il perdait son combat, se dire « Ah, mais j'ai pas tout mis en œuvre. » Donc ça, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dinguerie que vous joue votre cerveau. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé de ça? C'est parce que Jordan s'est mis une tôle avant le... Jordan, donc mon pote, s'est mis une tôle avant le 10K. Et il s'est pas mis une tôle volontairement. Possiblement, c'est son cerveau qui l'a entraîné dans cette direction-là pour pouvoir avoir une excuse si jamais tu fails. Et donc votre cerveau, il va vous trouver des excuses. Et donc, pour ça, il faut comprendre que votre cerveau, il vous ment. Il vous mytho, parfois. Et il vous mytho pour vous protéger, en fait. C'est important aussi de comprendre que vous n'êtes pas votre mental. C'est très présent dans la pensée stoïque. dans les bouquins d'Eckhart Tolle, le pouvoir du moment présent, le truc un peu bullshit là, mais intéressant. J'ai retenu un seul truc, c'est vous n'êtes pas votre mental. Donc votre cerveau, il vous veut du bien au global. Hein. C'est pas qu'il vous, il vous ment pas pour vous faire chier, mais sur le court terme, il veut vous protéger de la souffrance. Et en fait, quand il vous trouve une excuse, il vous dit c'est pas grave, regarde, il y avait telle circonstance atténuante. Et c'est comme ça qu'il vous protège. Mais pour progresser, malheureusement, il faut lui apprendre que c'est fine d'avoir de la circonstance atténuante, enfin d'avoir de la souffrance, pardon, court terme, parce que c'est ce qui donne lieu à l'épanouissement long terme. Et donc c'est pour ça notamment qu'on a mis own it dans la culture Kodak, donc prendre responsabilité des choses, c'est parce que c'est beaucoup plus agréable. Et ça donne pas lieu à grand chose. En fait, il y a pas beaucoup. Ce qui est chiant, c'est que c'est une mentalité de victime, en fait, de trouver des excuses. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui sortent de ça. Ça ne change pas une situation et c'est juste pour parce que vous n'êtes pas capable d'accepter la douleur d'avoir fail, quelque chose que vous avez entrepris. Donc il ne faut pas se trouver d'excuses. Vous avez raté votre temps, Ok, on continue, on retourne travailler. J'ai raté mon Dexascan. Pas grave, je m'en fous. Donc, la leçon, vous ne gagnez rien quand vous vous justifiez, assumez et grand bien vous en fera. Pendule numéro 4. Les parents minimisent le downside. Bon, l'idée générale de cette partie, c'est quoi ? C'est que si vous aimez vos parents, si vos parents vous aiment, alors c'est votre devoir de ne pas les écouter, ce qu'ils vous recommandent. Et c'est précisément parce qu'ils vous aiment. Je voulais prendre l'exemple de ma mère. Ma daronne, je vous ai dit, c'est celle qui m'a éduqué avec des valeurs, franchement des super valeurs, de bel être humain, je pense. Mais en même temps, du coup, avec la gentillesse, etc., toutes les belles choses qu'elle m'a transmises, elle m'a transmis aussi des trucs sans le vouloir, qui sont pas ouf pour se développer dans la vie. La première chose, c'est une peur du conflit que j'ai dû compenser très très fort derrière en faisant des sports de combat et en étant belliqueux, disons. Et voilà, j'ai aimé la guerre pendant pas mal de temps, les embrouilles. Voilà. Et ma mère me disait aussi un truc qui m'a pas mal marqué, c'est qu'elle, elle disait pas à ses copines que j'avais fait HEC. Et je trouvais ça marrant parce que c'est une mentalité de... À la fois, j'ai pas envie de me mettre en valeur, mais aussi ce que ça cache profondément, et c'est ce que je reproche d'ailleurs à pas mal les étudiants d'HEC qui disent pas qu'ils ont fait HEC, genre en soirée, etc., c'est que tu penses que dire que t'as fait HEC fait de toi quelqu'un de supérieur. Et donc finalement, en fait, ce que ça cache, en voulant ne pas le dire, tu montres en fait l'inverse. Tu montres finalement ta supériorité. Ce que tu penses profondément de toi-même. Bon, bref. Donc tout ça veut dire que ma mère, elle a pas fait ça pour m'enculer. Hein. En fait, les parents, ils sont là pour te protéger. Le travail d'un parent, c'est de faire en sorte qu'il ne t'arrive pas de mal. Et ça, c'est par-dessus le fait qu'il t'arrive des trucs bien. Ils veulent surtout qu'il t'arrive rien de mal. Et c'est pour ça, par exemple, que votre maman, elle ne veut pas vous dire « battez-vous, quand quelqu'un vous embrouille, battez-vous ». Ce qu'un papa fera peut-être un peu plus. Mon père m'a plus recommandé de faire ça, même si j'ai l'impression que c'est plus la mentalité de la maman qui a gagné, du moins sur cet aspect-là. Donc, où est-ce que j'en étais ? Ouais, c'est pas le job de vos parents en fait de vous soutenir dans vos entreprises dans le sens le verbe entreprendre transformer en nom dans les choses que vous entreprenez. En fait, c'est votre travail à vous de démontrer que ce que vous faites est bien parce que vos parents ils vont toujours vous emmener dans la voie la moins risquée, donc forcément aussi vers celle qui paye le moins peut-être. C'est pour ça qu'ils vont vous emmener vers une école de commerce, etc. C'est pas parce qu'ils savent que vous pourrez être entrepreneur, que vous pourrez avoir un énorme poste, etc. C'est parce que dans leur tête HEC égale pas de risque que mon fils soit au chômage. Et c'est surtout ça qui est précieux, plus que les énormes débouchés qu'il pourrait avoir en se faisant fouetter dans un cabinet de conseil ou en M&A. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que si jamais vous leur prouvez que votre vision marche, que vous faites un truc un peu différent, mais que vous leur montrez que ça fonctionne, et ben ils seront hyper, hyper heureux pour vous. Donc c'est votre travail de leur montrer, c'est pas leur travail. Donc arrêtez d'en vouloir à vos parents parce qu'ils vous soutiennent pas, c'est pas leur taf. C'est pas leur taf de vous soutenir dans les trucs que vous montez. Et c'est aussi pour ça que je me disais d'ailleurs qu'être parent et entrepreneur ça va être assez dur. Je pense que pour mes enfants ça va être assez chaud parce que moi je sais que le downside c'est pas la même chose. Le downside que j'essaierai de minimiser c'est pas celui d'être au chômage etc, c'est celui de prendre aucun risque et de faire le mouton. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur un enfant à qui on inculque que c'est ça le pire scénario c'est de faire comme tout le monde. Voilà, donc mon conseil très simple sur cette quatrième pendule, c'est construisez-vous avec puis contre vos parents. Parce que c'est la mission qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient envers vous. Je répète, la mission qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient. C'est comme un DJ. Hein. Il ne vous met pas le son que vous voulez, il met le son que vous ne saviez pas que vous vouliez. Numéro 5. quelles hypothèses doivent être vraies pour qu'une entreprise fonctionne ? Alors ça, c'est une façon de penser que j'ai trouvé beaucoup dans la mentalité américaine de la Silicon Valley. C'est que quand on monte une start-up, c'est assez dur de fournir du résultat en termes de chiffre d'affaires sur les premières semaines, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut rien faire et qu'on ne peut pas mesurer le progrès. Il y a une façon assez facile de mesurer le progrès, c'est de déterminer avant, les aventures que vous allez entreprendre, quelles hypothèses doivent être vraies pour que ma startup soit un succès. Donc, prenons l'exemple pour Kodak. Donc, les hypothèses qui doivent être vraies pour que Kodak fonctionne, il y en a trois. D'abord, c'est il est possible de monter une boîte en remote avec des gens qui travaillent, qui sont performants, et d'attirer des talents, etc. Bref, le remote, ça fonctionne. Hypothèse numéro 2, la décision par un prospect de son prestataire en ligne, donc son agence, entre guillemets, entre parenthèses, est prise en ligne. Je vous le rappelle, ça là, parce que mon expression n'était pas claire. La décision du prestataire est prise en ligne, très simplement. C'est-à-dire qu'on s'est fondé sur un insight, c'est que les gens choisissaient sur LinkedIn avec qui ils voulaient, voulaient travailler. Et troisième hypothèse qui pourrait être vraie, vous savez, sur un de nos avantages comparatifs, c'est qu'on se forme beaucoup aux États-Unis. Donc, il faut juste, pour que ça soit vrai et que l'entreprise fonctionne, il faut qu'en effet, on ait un edge par rapport au marché français. Et donc, après, l'objectif, donc sur ces trois hypothèses, vous les avez, vous ne savez pas si elles sont vraies encore. C'est de mettre en place un protocole qui va vous permettre de les vérifier le plus vite possible. C'est pour ça que les start-upers passent beaucoup de temps à parler à leurs clients, parce que c'est eux qui leur apprennent ces choses-là. Et donc moi, par exemple, pour ces trois hypothèses que je viens de vous donner, je peux trouver trois protocoles de test assez faciles. Donc pour est-ce que le remote, ça fonctionne ? Je peux regarder très simplement sur le court terme, c'est est-ce que j'ai des gens d'un niveau de qualité que je m'impose, qui ont envie de travailler avec moi, des gens quali. La décision du prestataire est prise en ligne, je le vérifie comment ? Je le vérifie en faisant des posts LinkedIn et en regardant si ça génère l'intérêt d'un décideur, au moins, et pourquoi est-ce qu'il a décidé de travailler avec nous. Et ensuite, troisième chose, constater qu'on a un edge américain sur le marché français. Là, je peux juste faire 5 audits de compte, quali, donc gratuit, et regarder si oui, en effet, je connais des choses en plus que la façon dont les gens pilotent dans les campagnes. Ça, c'est un truc qui m'avait donné beaucoup de confiance au démarrage. C'est à force de faire des audits de compte à l'époque et de voir à quel point les autres prestataires étaient nuls. Eh bien, ça m'a donné énormément de confiance en moi. Donc, mon conseil là-dessus, c'est de mesurer le progrès selon la progression de démonstration des hypothèses. Pendule à l'heure numéro 6, j'allais dire astuce numéro 6, mais ça n'est pas le cas. Heureusement que je ne l'ai pas dit. Quelques mots sur la concurrence. Donc, j'aime beaucoup vous parler de concurrence et je voulais ajouter encore quelques mots. Je crois que j'ai deux points dessus. J'ai un truc sur la copie et un truc sur la concurrence. Donc, je voulais étayer un petit peu ce que ça veut dire que de copier un concurrent. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous choisissez de faire pareil qu'un compétiteur ? Ce que vous faites finalement, c'est de l'intermédiation. Ça veut dire quoi ? C'est qu'au lieu de regarder ce que votre client il veut, vous regardez ce que le concurrent répond à la demande client. Et donc, en fait, très simplement, vous mettez un intermédiaire entre le client et vous. Et vous savez très bien que dans n'importe quelle chaîne de valeur, à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, c'est aussi quelqu'un qui sert dans la marge. C'est un truc que j'avais entendu dans le podcast d'Elio Avila-Munoz, qui s'appelle Range ta chambre. Je crois qu'un kilo de cocaïne au Mexique, ça coûte 2 $. Et juste avec tous les passages de frontières, avec les passeurs, le transport, les revendeurs, la marge du mec qui a les dealers, etc., eh bien, ça fait que ça coûte à peu près 100 $ peut-être aux US. Je ne connais pas le prix exact. Donc à chaque fois qu'il y a un intermédiaire, il prend sa part. Et donc, si on applique cette métaphore-là au fait de copier ses concurrents, ce prix-là de l'intermédiation sur les idées, tu le payes avec deux choses, avec du temps et avec de l'incertitude. La première chose, c'est que quand tu vas choisir de copier un concurrent, tu payes avec du temps. Donc forcément, tu vas toujours arriver après la bataille, puisque tu ne peux par définition pas mettre en place quelque chose que ton concurrent n'a pas déjà mis en place, pour que tu sois capable de le constater. C'est la première chose, donc tu vas toujours être en retard. Et la seconde chose, c'est l'incertitude. En fait, quand tu copies ce que fait un concurrent, qui répond à une demande client, ça fait exactement comme le téléphone arabe. C'est-à-dire que tu te dis, oh, ok, il fait ça comme ça, je vais essayer de le refaire à la façon dont je l'ai lu. Mais tu rates 40 détails, tu vas essayer de l'appliquer, ça n'a pas marché. Alors ça se trouve, ça marche chez le concurrent. Et le pire, c'est que parfois, tu appliques un truc qui ne marche pas chez le concurrent. Et toi, tu ne sais pas, tu as juste l'impression que c'est bien parce qu'il le fait. Donc faites attention au téléphone arabe. Et donc, pour finir ces quelques mots sur la concurrence, le secret, il est directement chez le client. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que fait le concurrent. Il faut juste apprendre à aller le chercher. Numéro 7. Le secret d'une agence et le secret d'une bonne relation client, c'est de faire de l'aïkido. Donc, l'aïkido, je ne suis pas un expert. Hein. Je connaissais une pote quand j'étais au lycée, qui m'a expliqué globalement que le principe de l'aïkido, c'était d'utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Ce qui permet à des gens beaucoup moins lourds de battre des gens qui sont des gros babards. Donc, ma vie de fondateur d'agence, elle est très simple, pour faire le parallèle avec ça. C'est gérer des problèmes que je n'ai pas créés. C'est-à-dire que tous les matins, j'ai sur mon bureau une pile de problèmes que je décide de traiter ou pas dans une certaine deadline, de clients, de problèmes de tel ou tel business unit, etc. Et j'essaie de faire du mieux que je peux pour traiter les plus importants d'abord. Et là-dessus, donc, dès qu'il y a une galère avec un client, franchement une astuce qui n'est pas juste valable quand vous avez une galère avec un client. C'est valable à peu près partout. Il y a un art de prendre le contre-pied, d'être complémentaire. Donc, quand tu as par exemple un client, un prospect en call sales, je ne sais pas si vous savez, il y a la théorie des couleurs que tu peux catégoriser n'importe quel type d'interlocuteur selon trois couleurs, quatre couleurs. Je ne les connais pas par cœur, c'est un peu nouveau pour moi, mais je sais que le rouge, par exemple, c'est dominant. Donc pour chaque couleur, la théorie t'explique qu'il faut prendre l'attitude complémentaire, si tu veux que ça fonctionne. Donc le dominant, par exemple, c'est quelqu'un qui va essayer de te matraquer, de dire « fais ci, fais ça », etc. Et là, ton réflexe, avec ton ego mal placé, forcément, ça va dire « mais non, je fais pas ça, etc., nique ta mère, je travaille pas avec toi ». Ça, c'est pas faire de l'aïkido, les potes. Ça, c'est faire de la confrontation. La confrontation, quand vous avez un business, la personne va vous dire « bye bye, allez, bise, je vais pas te donner mon argent, je vais plutôt aller la donner à l'autre personne à côté ». Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire de l'aïkido, donc utiliser la force de l'autre contre lui. Donc quelqu'un qui est très assertif, dominant, vous l'accompagnez dans ses idées. Vous êtes très confortable, vous acceptez, vous prenez pas la mouche, pas les trucs personnellement, ok, d'accord, etc. Comment je peux bien répondre à ta demande, etc. Et vous amplifiez le trait, vous l'accompagnez dans chacune des choses qu'il veut faire. Et c'est ça qui va vous permettre de le signer. C'est la même chose quand tu t'embrouilles avec un client. Quand tu te fais engueuler super fort, ce qui arrive, eh bien, il ne faut pas essayer de contre-engueuler. Tu t'acceptes que tu es un punching ball. Comme un arbitre au foot. Tu prends le punching ball, tu mets ton ego au bon endroit. Ça ne dit rien sur qui tu es. Tu ne vas pas le mal le placer. Je n'ai rien à rajouter de plus. Et ça permet de traiter les choses. Et à l'inverse, quand tu as quelqu'un qui est un petit peu mou, un client que tu n'arrives pas à bouger, tu sais que si ça continue, bon bah, à un moment, il va se réveiller, il va aller voir un concurrent, etc. C'est ton devoir, toi, de le bouger. Donc tu le secoues et tu crées la complémentarité dont il a besoin. Et ce qui empêche souvent les gens de faire ce truc-là, c'est l'ego, je vous l'ai déjà dit. Et particulièrement pour moi, en fait, c'est très dur pour moi de parler en frontal à l'opposition quand j'ai l'impression qu'on manque de respect, surtout à quelqu'un de mon équipe. Où c'est très très dur de ne pas aller en frontal et je sais que je fais beaucoup d'erreurs en faisant des appels à chaud, etc., envoyer un mail salé, etc. Donc maintenant je laisse un petit peu de temps là-dessus, mais je vous conseille vraiment de vous penser comme si vous faites un travail de service dans lequel vous êtes votre travail c'est de servir le client comme à l'hôtel, etc. Vous allez avoir des cons, vous allez avoir des gens qui vont abuser de ce truc-là. Faites de l'aïkido, ne prenez pas le truc personnellement, c'est pas contre vous. Souvent les gens ils sont mal dans leur peau, c'est pour ça qu'ils parlent mal aux gens, ils sont tout puissants, pas de problème. Je connais mon travail, c'est une des parties pour lesquelles tu me paies. Ça va bien se passer, mais ayez vos limites aussi. Bref. Et donc moi, je pense toujours à la métaphore de la corrida. Quand tu as un taureau qui te fonce dessus, soit tu le rentres tête la première dedans et il va te rouler dessus, parce que le client a toujours raison, soit tu sors ton petit tissu là, tu fais « olé !» et tu passes, et hop, tu joues avec, et à un moment, il va se fatiguer. Et là, tu lui plantes ton pic. Bref, non, prenez soin des taureaux, ça va. Vous avez compris. Donc pour ça, pour moi, c'est un conseil de vie. Hein. C'est faites de l'aïkido, pas de la confrontation directe, mais sachez quand même quand aller au combat. On en reparlera dans un épisode prochain. Alors, je l'ai écrite en anglais, celle-là, j'ai mis « Copying is shit, but not copying is shit too ». Quand un théorème est vrai, faut pas faire l'opposé volontairement. Donc c'est pour aller un petit peu plus loin sur le sujet de la copie. Et donc plus globalement quand tu vois un truc qui marche, faut pas copier de manière générale, vous savez, je pense que c'est dans l'imaginaire collectif, c'est la doxa, copier c'est mal. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu vois quelque chose qui fonctionne et que tu es sûr que ça pourrait marcher sur ton business ou sur toi? Tu vas pas faire différemment juste pour pas copier, parce que c'est ridicule. En fait, en voulant te construire contre quelque chose, vous avez déjà expliqué que pour être contre quelque chose, contre c'est toujours en appui sur. Quand tu es contre un mur, T'es contre le mur en opposition, mais t'es aussi appuyé dessus. C'est-à-dire, s'il n'y a plus de mur, tu te pètes la gueule. C'est de la philo, c'est de l'enculer des mouches pardon, sur les termes. mais c'est très important de comprendre ce truc-là. Donc, il faut... quand il y a des théorèmes, en fait, du réel, tu ne vas pas faire genre que le théorème, il est faux. Tu ne vas pas commencer à réinventer Pythagore juste parce que, ah, il a déjà inventé, j'ai pas envie de copier. Non. Et donc, pour moi, c'est tout le défi, en fait, dans une start-up, quand tu es un fondateur, c'est trouver le défi entre innovation et copie. Donc, la façon dont j'ai choisi de le résoudre, c'est très simple. C'est il faut trouver une chose sur laquelle tu es radicalement différent et tout le reste, tu fais pareil. Jusqu'à ce que tu trouves tes re-besoins de te différencier. Auquel cas, tu peux essayer de réinventer une partie de l'équation. Et vous serez surpris de savoir que l'innovation, parfois, c'est pas grand-chose. Ça peut être juste une perspective différente sur quelque chose. Donc, juste le fait d'avoir du remote, pour nous, c'est de l'innovation. Ça, vous voyez, c'est pas sorcier. Hein. Et d'avoir du remote et une boîte qui fonctionne, c'est ça paraît énorme pour les gens, alors que c'est très simple. Et donc, à côté, je vais pas en même temps essayer de réinventer mon pricing. Je vais pas dire, je vais pricer différemment avec un pourcentage du mon cul, un truc qui a jamais été fait. Non, j'ai ce super point de mon service, je le fais bien, et derrière, on verra si j'arrive à innover sur le reste, mais en attendant, je veux que le reste, ça fonctionne. Je veux pas refaire un coup de poker à chaque fois. Donc, ce que je vous conseille, c'est de choisir la catégorie dans laquelle vous voulez évoluer. Ce dans quoi vous évoluez, mais vous voyez ce que je veux dire par catégorie. Hein. C'est vous voulez être le meilleur dans quel domaine ? Le meilleur créateur de contenu sport, le meilleur créateur de contenu sport de raquette, ben, vous voyez, choisissez votre niche. Et donc, vous commencez par respecter tous les codes de cette niche et vous en brisez un. Mais vous en brisez un très très fort qui va faire votre différenciation. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer d'en briser trop. Parce qu'en fait, quand tu brises trop de choses dans une catégorie, tu sors de la catégorie. Finalement, tu n'es plus benchmarké par rapport à la catégorie, tu es juste un mec que tu ne sais pas trop dans quelle case mettre. Je prends un petit exemple de sport. Nadal, son coup droit bizarre, là, lifté, qui n'est absolument pas du tout académique, c'est ce qui fait sa spécificité, mais à côté, il ne va pas jouer en tong pour être différent. Il va faire comme tout le monde, il va mettre un putain de short, il va servir, il va faire sa technique de jeu, il a un revers assez standard, pas un très bon volleyeur, etc. Mais il a juste une chose qu'il fait incroyablement bien, et souvent, ça suffit pour faire une carrière de ouf. C'est pour ça qu'Mbappé, il aura le ballon d'or à un moment. Il a construit sur sa technique. Ouais, il a beaucoup de choses. Lui, c'est une anomalie. Vitesse, technique, tout. Enfin bref, il est beau. J'ai envie de le pécho et tout. Bref. On avance. Vous avez compris. Donc, copiez quand il faut copier. Mais ayez un gros point de différenciation. Numéro 9. Posez le problème. J'ai remarqué quelque chose sur la façon dont n'importe quelle personne traite les problématiques qui leur sont à poser. J'ai remarqué que souvent, les gens ne savent pas décomposer une problématique. Et ça, je me suis rendu compte que j'avais appris à le faire en mathématiques. Il y avait un cube à un moment, donc un cube, c'est quelqu'un qui a fait sa troisième année, qui en prépa m'avait dit, les maths, en fait, tout le monde croit que c'est compliqué, mais ce qui est important, c'est de poser les trucs. Et là, tu as envie de lui mettre une claque. Parce que lui, il a un an d'avance, il a déjà vu le programme, il a déjà fait deux fois plus d'anal que toi, il te soulève. Donc tu as envie de l'enculer. Mais après, j'ai compris. Quand tu poses tout ce que tu sais et ce que tu veux démontrer, tu es très vite amené à la limite de ta connaissance. Donc en fait, si tu connaissais la réponse ou si tu es capable de trouver la réponse, tu vas la trouver très très vite. Quand tu as bien posé les informations, tu trouves. Et donc, il y a beaucoup de gens en fait, qui vont par exemple avoir un constat sur la boîte, bon, ça grossit pas ou ça grossit pas assez vite, et ils vont comme ça dire « Ah bah c'est parce qu'il faut racheter une boîte, ou il faut changer toute la méthode, ou il faut virer lui ». Et les gens, ils vont. En fait, c'est comme si, je vous dis, c'est très simple, c'est comme si vous aviez les yeux fermés et vous essayez de tirer une fléchette au milieu d'une cible. Je crois que je l'ai déjà pris, cette métaphore. C'est aussi simple que ça. Et donc, ils vont d'idée en idée sans réfléchir. À un moment, ils s'épuisent et ils ferment leur botte. Et donc, ils se jettent directement sur les solutions sans savoir si c'est vraiment ça répond au problème ou juste tout simplement si c'est la meilleure, si l'hypothèse la plus probable pour résoudre le problème. C'est un truc qui, moi, à titre perso, du coup, m'a fait défaut beaucoup dans la phase de scale de Kodak parce que. C'est devenu pour moi un défaut le fait d'agir vite. Donc le truc qui m'avait tellement porté, qui m'a permis d'aller plus vite que tout le monde, eh bien c'est le truc qui m'a ralenti et qui m'empêchait de passer à l'étape d'après. Moi j'ai pas beaucoup réfléchi dans les premières années de Kodak, enfin, dans les premiers mois de Kodak. J'ai avancé très très vite et c'est là où j'étais très bon en fait. Je pense que je suis world class sur ce point-là. En termes de vitesse d'exécution, je fume tout le monde si je suis tout seul. Je sais que j'ai cette capacité-là. Et enfin je fume au moins les gens de mon secteur. Mais après derrière. Quand je faisais des trucs radicaux, tout changer, etc. et tout, bah, ça marchait plus parce que j'avais moins le droit à l'erreur. Il fallait que j'analyse un petit peu plus ces solutions, ok, peut-être ça, etc. Que je fasse de la vraie résolution de problème. Et donc pour ça, je vous ai déjà parlé des 5 pourquoi, allez consommer l'épisode précédent. Mais ça marche. C'est pas de l'enculage de mouche. Faites votre démarche jusqu'au bout et soyez sûr que vous êtes sharp, vous êtes précis. Et ok, j'ai tel problème pour telle raison, etc. J'ai 3 hypothèses, je vais tester celle-là d'abord. Et c'est comme ça que tu laisses rien au hasard. Et on passe à la pendule numéro 10. J'ai mis quoi? J'ai mis les trucs faits inconsciemment doivent être défaits consciemment. Quand même vérifier si ils m'ont mis un message. Non, non, ils m'ont pas mis de message. Hein. Ils sont tranquillement en train de se pinter. Hein. Mais après, bon, je leur avais dit que je restais, donc c'est normal qu'ils m'aient rien mis. Salaud, là. Bon, dernière pendule à l'heure. Vous savez, moi, j'ai mon téléphone en noir et blanc. Non, vous ne le savez pas. Pourquoi je vous dis ça? Vous ne savez pas du tout, c'est hyper personnel. Vous ne savez pas du tout. Bref, j'ai mon téléphone en noir et blanc. Ça m'a été recommandé hier par Tom Beuglin, le mec là, ouais, le fameux, le mec de Standard Ecom. Et à chaque fois que les gens le voient, ils ont direct une remarque dessus. Je pense qu'au fond d'eux, ils trouvent ça un peu ridicule. Et je pense qu'aussi, au fond d'eux, ils trouvent que ça fait tiep de se mettre des chaînes, en fait, comme ça. Parce que globalement, c'est comme si tu t'enchaînais, tu dis, ah, je sais que je vais pas me contrôler, donc je vais devoir mettre mon truc en noir et blanc, comme ça fera moins de dopamine sur l'écran, bla, bla, bla. Et donc les gens se disent, ah, si tu es obligé d'être aussi hardcore, c'est probablement que tu... Bon, en gros, tu as un problème, quoi. Tu es addict. Moi, je trouve que ça, c'est précisément pas comprendre ce dont on parle quand on parle de sujet du noir et blanc. Deux raisons à ça. La première chose, c'est que mettre son téléphone en noir et blanc, et plus globalement, assimilez-le à n'importe quelle chose qui vous permet de combattre vos inclinaisons naturelles immédiates, à vous satisfaire immédiatement. Donc à ouvrir Instagram Reels, par exemple, etc. C'est un truc qui permet, donc le noir et blanc, de combattre des actions inconscientes qui sont passées dans les habitudes. En fait, tu fais même plus gaffe que tu sors ton téléphone, que tu as ouvert 14 fois Twitter. Tu fais même plus gaffe. Donc le but, le premier truc pour les combattre, c'est de les faire passer de l'inconscience à la conscience, donc de les faire remonter à l'attention. C'est pour ça aussi que je mets un chronomètre à chaque fois que j'ouvre Instagram, et Reels, principalement quand je sais que je vais faire une petite session. Je mets un chronomètre parce que je sais que je vais me perdre dedans et que je vais passer un temps de ouf. Donc je me mets un chronomètre tant que je suis lucide, je mets 10 minutes, et quand ça sonne, je sais qu'il faut arrêter. Et là, je peux redécider est-ce que j'ai envie de le faire, ou ah, je m'étais dit il y a 10 minutes que j'allais arrêter, c'est le bon moment. Donc ça permet de combattre des actions inconscientes, c'est la première chose. Et la seconde chose, je trouve que c'est ce truc-là, là. Accepter ses limitations, et donc accepter de mettre son téléphone en noir et blanc, c'est faire preuve d'humilité. Et donc c'est accepter qu'on est en fait la salope de plein de choses, et que moi-même, je suis à la merci de plein d'inclinaisons naturelles. Et je trouve que ce qui fait le plus pitié, c'est les gens qui se croient plus forts que la nature humaine. Et je trouve que c'est d'ailleurs même la définition de devenir adulte. Devenir adulte, c'est accepter ses limitations. Donc là, je vais faire une nuit blanche. Ok, bah le lendemain, il y a très peu de chances que je puisse travailler. C'est accepter, c'est maximiser son potentiel avec des ressources limitées. Tu sais que tu as un certain nombre d'énergie dans la semaine. Bon, bah tu vas l'utiliser pour ça, ça, ça et ça. Tu as des standards sur tel et tel truc. Bon, bah tu vas pas aller faire tel type de sortie parce que ça ne sert pas à ton objectif, etc. Et c'est ça, être un adulte, selon moi. C'est faire des choix en connaissant les contraintes que tu n'as pas quand tu es enfant parce que. Quand tu es adolescent, parce que tu peux te taper trois cartons, trois nuits blanches et le lendemain, tu es opérationnel. Quand tu commences à les découvrir, tes limitations, tu fais gaffe. Et donc, c'est très important. Donc, faire preuve d'humilité, c'est. Vous savez que même tous les champions du monde ont un coach, hein, d'ailleurs. Donc, ça veut dire, c'est parce qu'ils sont. Ils savent que, bon, ils ont besoin de conseils, mais ils savent aussi qu'il y a des moments où ils vont être un peu down, ils ont besoin d'une personne pour les remettre d'aplomb. Et donc, tu as besoin, en fait, d'un coach pour t'aider à te dépasser. Ça a été prouvé. Quelqu'un qui va t'encourager. C'est pour ça que le public près d'une course, ça motive de ouf. Pour ça qu'il y a des fans dans les stades au foot et que les joueurs ont le seum quand il n'y a pas le public, quand c'était le confinement par exemple. Et donc bref, voilà. Donc les deux astuces, c'est quoi? C'est faites passer vos actions dans la conscience et ensuite faites preuve d'humilité, acceptez le point de départ. Et donc parfois, il faut savoir s'enchaîner au mât, comme Ulysse, parce qu'on est des merdes. Et plus il y a de gens qui se foutent de ta gueule de ça, plus bah, ça grossit le nombre de personnes avec lesquelles tu vas creuser l'écart, pour reprendre une formule du Raptor. Donc mon conseil, c'est accepter vos limitations. Je vais terminer avec la section contenu de la semaine. Donc le meilleur de la semaine, et je ne vais pas prendre de questions cette fois-ci parce que je suis extrêmement fatigué. Et je vais aller me pioter, je crois que je ne vais même pas avoir la force d'aller jusqu'au bar. Deux vidéos dont j'ai envie de vous parler cette semaine. La première, c'est une vidéo de Mark Zuckerberg qui s'appelle How to Build the Future. Très simple. Et dedans, il dit quelque chose que j'ai trouvé trop stylé. Il dit, tu ne peux pas 80-20 everything. Donc ça veut dire, tu vois, 80-20, c'est une référence à la loi de Pareto. Donc le 20% qui apporte 80% des résultats, pour se concentrer sur l'essentiel. Marc, qu'est-ce qu'il raconte ? Ben, il raconte que tu ne peux pas en fait, voilà, te contenter du strict minimum sur quelque chose. Et finalement, il dit exactement ce que j'ai dit avant. Et je vous jure, je ne l'ai pas fait en concerté. J'ai noté cette astuce hier et j'ai écrit la pendule ce matin. Il va expliquer que tu peux être average sur plein de choses, mais il faut qu'il y ait un truc que tu fasses de façon world class. Et donc pour eux, disons, c'est quoi ? C'est connecter les gens, peut-être. Donc derrière, peut-être que tes boutons ne sont pas clairs, peut-être que tu as trop de fonctionnalités, etc. Mais les gens, ils vont t'utiliser si tu sers profondément à leur intérêt. Et ce qu'il dit, ce n'est pas forcément qu'il est contre Pareto. C'est que je pense qu'en fait, il applique le 80-20 par composition. C'est-à-dire, il prend le 80-20, et puis il refait un 80-20 dessus, et puis il refait un 80-20, puis il refait un 80-20. Et finalement, il continue d'améliorer, d'améliorer, d'améliorer. À chaque fois comme ça, en mettant à chaque fois de l'essentiel, mais sauf qu'il met un effort particulier sur une partie du service. Et donc, je vous invite à vous poser cette question suite à ce contenu que vous pouvez chercher sur Internet, How to Build the Future, Mark Zuckerberg. Quelle est la seule chose sur laquelle vous ne pouvez pas vous permettre d'être moyen ? Voilà. Moi, c'est ma boîte, c'est Kudak. Oh, toutes les miennes. Je peux être moyen en cours, je peux être moyen à la salle, mais pas sur ça. Et la seconde chose, c'est une conférence de Peter Thiel. Je ne sais pas d'ailleurs quelle conférence en particulier, mais il le répète beaucoup dans pas mal de conférences qu'il a faites quand, il parlait de son bouquin Zero to One, qui venait de sortir. Et dedans, il dit qu'il pose une question souvent aux entretiens, c'est quelle est la croyance avec laquelle le moins de personnes sont d'accord ? Quelle est ta croyance avec laquelle le moins de personnes sont d'accord ? Et donc, posez-vous cette question. Donc, vous écoutez le podcast, qu'est-ce qui vous vient en tête là-dessus ? Normalement, il faut un peu réfléchir. Parce que ce truc-là, c'est ce qui a de fortes chances, donc la réponse à cette question, d'être l'insight qui peut fonder une boîte. Et donc tu perds rien là-dessus. Soit tu as raison, donc tu peux faire une boîte dessus, c'est-à-dire que personne n'a compris. Soit tu as tort, donc ça veut dire que soit il y a plus de gens que tu penses qui sont d'accord avec toi. Ta croyance est fausse, donc tu crois quelque chose mais c'est faux. Et dans quel cas tu fais progresser ton système de croyance. Donc tu as tout intérêt en fait à essayer de vérifier ce genre de choses-là. Qui sont des croyances, et vous voyez que c'est quand même assez proche de l'insight dont on parlait, donc valider des hypothèses, quelles hypothèses devraient être vraies pour que mon entreprise fonctionne, c'est assez proche de ça. Donc je vais vous donner évidemment la mienne, quelle est ma croyance avec laquelle le moins de personnes sont d'accord, c'est très simple. C'est très simple, c'est aussi ça la croyance, c'est que la vie est extrêmement simple. La majorité des décisions pourraient être prises en 5 secondes, et les gens font chier. Voilà, c'est juste que souvent ils sont lâches, ils connaissent la bonne réponse, mais ils n'ont pas le courage de la prendre. Voilà, les amis, j'en ai plein d'autres, évidemment des croyances controversées, mais je vous les révélerai au fur et à mesure. Celle-là, je la trouvais bien. On arrive à la fin de cet épisode de Road to Temi. Je suis désolé pour la petite coupure de micro, je ne sais pas combien de temps ça aura duré à l'enregistrement. Je vous embrasse et j'étais ravi de passer ce moment avec vous, et pas avec mes associés. Je donne rendez-vous la semaine prochaine dans un épisode de RTTM, le podcast, et d'énormes bisous.